Il est 18h, fidèles auditeurs et auditrices, bienvenue en direct sur le studio Kalangou, le point sur l'actualité nationale en français, ça maintenant. Mardi 9 juillet 2019, bonsoir à tous, voici nos titres. Les citoyens nigériens apprécient différemment l'organisation du sommet de l'Union africaine tenu du 4 au 8 juillet à Niamey, à suivre leur réaction dans ce journal. À 24 heures du début des examens du baccalauréat session 2019, tout est fin prêt dans les différents jurys, constat au jury 9 de Niamey installé au lycée Corombé de Niamey. L'introduction des langues nationales dans l'enseignement primaire permettra aux jeunes Africains d'accéder plus facilement au savoir. L'avis d'un acteur de l'éducation, c'était lors d'un salon samedi à Niamey en marge du sommet de l'Union africaine. On en parle dans la partie magazine de ce soir. À ce microphone, Diallo Mariama Kenda, depuis quelque temps sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp à Niamey, il est demandé via un numéro de téléphone de s'abonner pour accéder aux informations du studio Kalangou. Nous tenons à informer le public que le studio Kalangou est étranger à cette démarche. Nous rappelons que nos informations sont gratuites, accessibles via nos radios partenaires et nos plateforme. Le studio Kalangou se réserve le droit de poursuivre toute personne physique ou morale qui utilise son contenu à des fins lucratives. Au lendemain du 33e sommet de l'Union africaine tenu à Niamey, auquel une trentaine de chefs d'État et de gouvernement ont pris part, les citoyens nigériens apprécient différemment l'organisation de ce sommet. Leur réaction au micro de Tarnan Foud Ahmed.
Nous aurons voulu que ce sommet-là soit un sommet qui réunira tout le monde, que ce soit les Nigériens de l'opposition, les Nigériens de la société civile. Malheureusement, on n'a pas constaté l'implication de toutes ces couches de façon effective dans cette organisation. Ça, c'est juste un élément, ça n'entame à rien à la réussite du sommet.
Niamey a changé de visage. C'est vraiment un honneur et une véritable chance pour le Niger. C'est bien. Mais en tant que jeune, je suis déçue. Il y a ceux qui ont pris la parole pour parler au nom de la jeunesse. Mais est-ce que l'occasion a été donnée aux jeunes devant ces chefs d'État-là pour dire « voici nos problèmes, voici nos attentes » pour pouvoir aussi contribuer au développement de notre chère Afrique.
Si vous avez eu des étrangers, c'est obligé qu'on ferme les routes pour sécuriser la population. Personnellement, je n'ai pas vu d'inconvénient. On a fait beaucoup de bénéfices. Moi, je suis un vendeur de lait. Les jours de l'ouverture du sommet, j'ai vendu toute ma marchandise. J'ai vu la différence.
Les épreuves du baccalauréat session 2019 débuteront demain sur l'ensemble du territoire du Niger. Le jury 9 de Niamey installé au lycée Issa Corombé possède aujourd'hui à l'affichage des listes de quelques 500 candidats dont il a la charge dans Kassoua Bagaji, secrétaire de ce jury au micro de Asmana China.
On vient de finir une réunion préparatoire. Le secrétariat va s'atteler à faire des affiches au niveau des différentes salles. Comme ça, le candidat, quand ils seront là, peut-être dans la soirée, ils verront dans quelle salle ils vont composer.
Combien de candidats avez-vous ici?
On a à peu près 500 candidats, série A4.
À quelle heure ils doivent être présents?
Ils doivent être présents demain, Inch'Allah, avant 7h30, parce que les appels vont commencer à 7h30.
Qu'est-ce qu'ils doivent apporter comme pièce?
Ils doivent venir avec leur carte d'identité, la convocation. S'ils sont des candidats libres, ils peuvent venir avec leur carte d'identité ou bien le passeport, accompagné de la convocation.
Quel va être le sort des retardataires?
Bon, les retardataires, s'ils viennent, si on ouvre l'épreuve à composer, les différents surveillants de salle ne peuvent pas l'accepter dans la salle. Il faut qu'ils renvoient le candidat au niveau du jury. Donc c'est au jury, au président, de voir s'il faut accepter le candidat ou pas.
Les jeunes de 15 à 25 ans résidant en milieu rural de 10 communes d'Agadez bénéficieront d'un apprentissage agricole pour améliorer leurs compétences à travers les sites installés dans leur localité. Une initiative selon le secrétaire général de la mairie de Timia qui va appuyer, développer l'agriculture et créer des emplois aux jeunes. Adouma Al-Goubas est au micro d'Anissi Karim.
Je crois que le choix de ma commune, ce n'est pas un choix fortuit. C'est une commune agricole avant tout, bien reconnue, bien connue à l'échelle nationale pour la qualité de ses agrumes. Et dans le domaine aussi du maraîchage, on fait pas mal de choses. Donc on n'est pas surpris du choix. Donc l'appui va encore renforcer, n'est-ce pas, le potentiel agricole qu'il y a, développer positivement l'agriculture et créer des emplois pour les jeunes. Parce que les jeunes sont là, ils sont désœuvrés. Vous les connaissez bien. Beaucoup sont employés dans l'or sans qu'ils ne soient vraiment satisfaits des activités qu'ils exercent parce que ce n'est pas tellement rentable et ils ont abandonné l'agriculture. Maintenant, je pense qu'à travers cette activité, ils vont y revenir. Et donc ce projet, je pense qu'avec une durée bien raisonnable, va venir encore accentuer le côté formation, le côté compétences techniques en matière d'activité agricole.
Malgré le retard de la saison des pluies cette année dans le département d'Aïrou, les prix des aliments bétail n'ont pas connu un renchérissement, selon le représentant du chef de canton. Avec le soutien de la haute autorité à la consolidation de la paix, les producteurs disposent à ce jour d'une quantité suffisante d'aliments à un prix abordable. C'est d'où Bimaya, représentant du chef de canton d'Aïrou, au micro de Abdoulaye Amadou.
Les dispositions que nous avons prises cette année, il faut d'abord dire que vraiment les éleveurs ont été confrontés à plusieurs difficultés, surtout en aliments bétail, particulièrement le son. L'État a amené du son, mais c'est très insuffisant pour satisfaire l'ensemble de ceux qui ont le besoin. Donc en ce qui concerne notre organisation, au titre du village de Ayorupel, en tant que membre de la structure de Kagel, nous nous sommes rendus auprès de la haute autorité où nous nous sommes entretenus avec les responsables et nous avons bénéficié de leur appui. L'appui a consisté de nous vendre le son à un prix modéré et nous avons amené le tonnage reçu ici à Ayorou. Tout le monde l'a constaté ici parce que pour Kagel, c'est vraiment pour aider. Nous l'avons vendu à un prix modéré.
Au Niger, la situation sécuritaire est aujourd'hui au cœur des préoccupations tant des autorités administratives que coutumières. Selon l'honorable Aboubakar Sanda Oumarou, sultan de Zinder, la meilleure façon de contribuer à la lutte contre l'insécurité est l'intensification et de la sensibilisation et les prières.
Il faut quand même continuer la sensibilisation. Si vous regardez en tout cas sur l'ensemble des régions de Zinder, on n'a pas en tout cas ce problème-là. Il n'y a pas eu un seul cas ici dans la région de Zinder, Dieu merci. En tant que, en tout cas, autorité, on est en train de sensibiliser la population pour que tout le monde soit, en tout cas, vigilant, ouvrir les yeux, regarder ce qui se passe. Tout ce qu'on veut, si on voit quelque chose d'anormal, il faut quand même dénoncer. En informant donc les autorités qui sont à côté ou les forces de défense qui sont à côté, pour que ça soit en tout cas contrecarré. Deuxièmement, ce que nous faisons, c'est surtout les prières. Donc on est en train de prier nuit et jour. Inch'Allah, nous allons réussir.
Propos recueillis par notre envoyé spécial à Zinder, Mokhtar Amadou. Le quota de 15 891 pèlerins octroyé au Niger par l'Arabie Saoudite pour le Hajj de 2019 est presque atteint selon Nassirou Seydou, chargé de communication au Haut Commissariat pour l'organisation du Hajj Koro. 12 632 futurs pèlerins sont inscrits à la date d'aujourd'hui. Nassirou Seydou explique que le Niger a le devoir d'absorber son quota, sinon pour l'édition prochaine, celui-ci sera revu à la baisse. Il est au micro de Adama Dawaki.
Nous sommes exactement à 12 jours du premier vol qu'on a prévu pour le 21 juillet. Le CS franco-arabe de Talaye qu'on a arrêté comme site de passage des pèlerins avant de regagner l'aéroport est fin prêt. Nous sommes en train de faire les dernières retouches avec les sanitaires et le quota est presque absorbé, le quota de 15 891 pèlerins. Ceux qui sont nets en main, qui ont effectivement tout payé, ils sont au nombre de 12 632, donc 4 103 pour le vol régulier et 7 709 pour le charter. D'ores et déjà, sur le tableau du Gao, nous avons vu les 2000 et quelques positionnés. Donc, parce qu'ils n'ont pas fini de payer, les agences ne les ont pas validés. Nous expliquons toujours aux agences et aux pèlerins et même aux autorités compétentes qu'il est impératif qu'un pays absorbe son quota. Puisque au cas où le quota n'est pas absorbé pour l'édition prochaine, l'Arabie Saoudite diminue le quota et l'octroie pour d'autres pays qui ont déjà absorbé et qui ont besoin d'un plus.
Les futures candidates enceintes au Hajj 2019 sont interdites d'effectuer le pèlerinage, selon Nassirou Seydou, chargé de communication au Haut Commissariat pour l'organisation du Hajj Koro. On l'écoute.
Au niveau du Koro, il y a un minimum de dispositions qu'il faut prendre. Quand une femme, voyez-vous, est enceinte, à un certain nombre de mois, il serait difficile, avec ce qui se passe là-bas, comme effort physique et autres, qu'elle puisse accomplir le Hajj. Jusqu'à 3 mois, c'est tolérable, d'après les spécialistes de la santé. Hein. Souvent, nous assistons à des cas d'avortement. S'agissant particulièrement de ces cas des femmes, c'est vrai, nous avons eu en 2017 une femme même qui a accouché là-bas, ce n'est pas normal. Donc, il y a des petits champs de corruption que les pèlerins arrivent à faire pour faire passer ou pour faire en sorte de satisfaire leurs besoins. Mais les sages-femmes qui doivent contrôler l'état de santé des femmes, y compris cette affaire de grossesse, elles doivent le faire en toute objectivité et en toute conscience professionnelle. Cette année, contrairement à toutes les années, nous allons veiller davantage. Puisque nous avons écrit au ministère de la Santé, si de tels cas se produisent, nous allons revenir tirer les conséquences, parce que c'est une question de responsabilité.
Studio Kalangou.
Suivez les programmes du Studio Kalangou à Dosso sur la radio FRA
92 MHz,
à Birningaouri sur la radio Marhaba
95.1 MHz,
à Dogandouchi sur la radio Dalol
92.8 MHz,
à Maradi sur la radio Garkwa
107 MHz,
à Mayayi sur la radio Anouri
99 MHz,
à Dakoro sur la radio Mouria Dakoro
99 MHz.
Studio Kalangou.
La deuxième partie de ce journal, la partie magazine des acteurs de l'éducation du Niger, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, se sont penchés samedi à Niamey sur l'introduction des langues nationales dans l'enseignement primaire, un vecteur de la vie des participants qui permettra aux jeunes Africains d'accéder plus facilement au savoir. Alassane Kouzi Mahamadou s'est entretenu avec un conférencier burkinabé, Kombari Isaka Hervé, membre du réseau ouest-africain des enseignants pour l'intégration et la paix dans l'espace CEDEAO.
L'utilisation des langues nationales de l'enseignement sera une porte d'entrée dans le savoir si toutes les communautés prennent conscience de son importance, estime Kombari Isaka Hervé, membre du réseau ouest-africain des enseignants pour l'intégration et la paix dans l'espace CEDEAO.
Il faut reconnaître que nos langues nationales sont un vecteur important si nous voulons avoir des systèmes éducatifs performants dans nos différents états.
Concrètement, en quoi est-ce que les langues nationales peuvent être un levier incontournable et d'aide à la performance de l'éducation?
Alors, la connaissance en elle-même ne constitue très souvent pas le problème, mais c'est la langue de communication qui fait barrière. Si je prends par exemple le cas d'un élève du primaire, on veut l'amener à calculer, à savoir, à maîtriser les chiffres. Quand vous le prenez dans sa langue nationale, il sait déjà compter de 1 à... je ne sais pas, beaucoup de milliers. Or, quand vous allez dans le français fondamental que nous étudions dans nos écoles, on sectionne, on s'arrête à 20. Moi, j'ai envie de dire même qu'on abrutit les enfants. Un enfant qui sait déjà compter dans sa langue jusqu'à 1000, pourquoi ne pas exploiter ça directement plutôt que de le ramener en séquence à dire, bon, il va compter à 20 pour la première année, à 100 pour la deuxième année. Or, à la première année, il aurait pu finir de compter tout. Et puis maintenant, peut-être rentrer et commencer à chercher comment on fait des techniques opératoires, quels sont les raccourcis de calcul qui peuvent exister. Donc les langues nationales, quand on regarde seulement cet aspect-là, ça montre à combien il est important de les exploiter et d'avancer rapidement.
Quels sont les principaux obstacles aujourd'hui pour l'utilisation des langues nationales dans l'éducation?
Nous avons plusieurs langues. Pour certains endroits, c'est des problèmes de quelle est la langue qu'il faut exploiter pour l'enseignement. Mais pourquoi chercher à valoriser une seule langue? Essayons ensemble, et quand les populations auront compris le bien fondé de la langue dans l'enseignement, ils comprendront qu'en fait, il s'agit de prendre la langue qui est la plus parlée et non la langue qui m'appartient ou qui appartient à autrui, parce que l'essentiel est d'utiliser ça comme une porte d'entrée vers les savoirs.
Est-ce qu'il y a d'autres réticences, par exemple des enseignants ou des gouvernants?
Le fait de comprendre l'importance de la langue nationale n'est pas encore perçu à tous les niveaux. Quand je prends les communautés, quand on dit on envoie un enfant à l'école, c'était pour qu'il parle français. Si c'est pour qu'il aille apprendre sa langue nationale, autant le laisser au village puisqu'il parle déjà sa langue. Mais quand on va faire comprendre à ses parents d'élèves ou à ses élèves ou à ses enseignants qu'en fait on ne leur apprend pas leur langue, on utilise leur langue pour leur donner accès à un savoir universel. Parce que les Chinois, ils vont à l'école, ils parlent chinois, ils ne parlent pas français. Mais chez nous, comme on dit, on a été ancré dans un système qui fait que dès qu'on dit école, école égale une autre langue. Mais non, l'école devrait être l'endroit où on découvre des savoirs. Et comme on découvre les savoirs, on utilise un vecteur et ce vecteur, c'est une langue nationale.
C'est la fin de ce journal. Merci de préférer les programmes de Studio Kalangou. Je vous laisse à présent en compagnie de Mahamadou Touré du studio Tamani dans le cadre du forum du Studio Kalangou. Il vous parle de la place des jeunes dans les médias de la Fondation Hirondelle.